émission spéciale Se loger, bureau et commerce en direct du MIPIM 2023 sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo pour en direct de Cannes, MIPIM 2023. Voilà, l'édition est lancée. Le Palais des Festivals bruisse de tous les intervenants et ça parle de toutes les langues, hein, je dois dire, aujourd'hui. Alors nous, on va rester en français pour s'intéresser au marché immobilier tertiaire après une année 2022 en demi-teinte, ou plutôt à deux vitesses. Quelles perspectives pour 2023? Des spécialistes pour répondre à l'ensemble des questions. On est ravis d'accueillir Constance Macré. Bonjour.
Bonjour.
Directrice croissance et stratégie commerciale pour Aviv France. Aviv France, c'est Groupe Se Loger et Meilleurs Agents. À vos côtés, Nicolas Verdillon. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Directeur de l'investissement CBRE France. Bienvenue à vous.
Merci.
À ma droite, Marie-Laure Leclerc de Souza, directrice agence Bureau Europe chez JLL. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Et enfin, Guillaume Decher, directeur chez Evolis. Bienvenue.
Bonjour.
À vous. Voilà. Un petit mot, tiens, pour présenter, alors très rapidement, hein, pour nos auditeurs, l'ensemble de vos entités. On commence avec Aviv Group, qu'on a découvert à l'occasion du RENT. On y était avec Radio Immo il y a quelques mois. Aviv Group, dans lequel on retrouve le groupe Se Loger, même si on va parler Se Loger, bureau et commerce aujourd'hui, mais aussi Meilleurs Agents, d'où vous venez, Constance Macré.
Tout à fait. Donc, en effet, pour le grand public Aviv en France, c'est surtout Se Loger, Logique Immo, Meilleurs Agents et puis les verticales de Se Loger, donc en particulier Se Loger, Bureau et Commerce, dont on parlera aujourd'hui. Mais Aviv, c'est un groupe européen, en réalité, avec oui. l'ambition de révolutionner la PropTech à l'échelle européenne. Donc, une ambition plutôt importante. Et donc, on a des acteurs comme ImmoWeb, ImmoVelt dans nos pays voisins.
Voilà, et puis tout à l'heure, on va aborder, et vous venez avec une étude hein, que vous avez réalisée, et on en saura un petit peu plus sur les porteurs de projets qui consultent justement la plateforme Se Loger pour bureaux et commerce. Nicolas Verdillon, CBRE, est-ce qu'on va encore préparer un des grands acteurs, effectivement, du monde de l'immobilier, en quelques mots?
Oui, bon, on essaye de servir le maximum de services, en faire de redondance, tout ce qui est donc transaction, locative, investissement, donc moi je m'occupe de la partie investissement, et puis bien évidemment tout ce qui est lié au property management, à l'expertise, pour faire de l'investissement, et puis maintenant, de plus en plus, tout ce qui est lié à l'ESG, à l'environnemental, qui est de plus en plus important.
Ouais, on va en parler, c'est en train de modifier complètement la donne, en tout cas plus un projet hein, qui sort de terre aujourd'hui sans qu'il y ait ces fameux critères ESG. Marie-Laure Leclerc de Souza, vous chez JLL, directrice agence Bureau Europe. JLL, un petit mot.
JLL, une vieille maison de plus de 250 ans, dont 50 ans en France. Nous sommes répartis sur le monde entier, dans 103 pays, et avec 103 000 collaborateurs. Et donc, en France, nous réalisons aussi les activités donc, de transactions, autant effectivement locatives qu'investissement, mais aussi l'expertise, mais aussi le workplace and design, bien entendu.
Le workplace and design, ok.
C'est tout ce qui concerne l'aménagement des bureaux oui. et l'ensemble des modes de vie de travail. De quelle façon va-t-on organiser une vie au bureau? Donc, surtout dans un moment post-pandémie, c'est un sujet qui intéresse toutes les entreprises en prenant en compte, bien entendu, les démarches environnementales, mais aussi la diversité et l'inclusion et nouvelles façons de travailler de façon générale.
C'est vrai que la vie au bureau est en pleine évolution, voire révolution. On va en parler également dans un instant. Enfin, Guillaume Decher, Evolis, un petit mot sur Evolis.
Nous sommes français. C'est une société que j'ai créée en 2000. Nous sommes 200 personnes présentes en Ile-de-France et en région. On a 18 bureaux en tout. Et on intervient donc sur le bureau, l'entrepôt, le commerce, en termes de transactions locatives, de transactions de vente utilisateur et en termes d'investissement, et ainsi qu'en gestion locative.
Très bien, allez, on se focalise justement sur ce marché de l'immobilier tertiaire avec nos experts, on l'a compris. On démarre avec vous, Constance. Tout le monde connaît Se Loger, la plateforme de référence. Voilà, en tout cas, c'est le réflexe en France, c'est Se Loger. Il y en a quelques autres, évidemment. Mais vous avez cette position de leader. C'est vrai que par contre, bureau et commerce, on connaît moins. Est-ce que vous pouvez nous présenter la plateforme et surtout, qui sont finalement les porteurs de projets? Parce que quand on va sur bureau et commerce, on est en recherche de quelque chose.
Oui, tout à fait. En effet, Se Loger Bureau et Commerce, c'est le leader sur l'immobilier tertiaire. Pour recontextualiser, notamment pour les auditeurs, c'est 67 000 annonces chaque mois
oui.
et c'est 370 000 visites mensuelles. Donc ça donne une idée de la portée du site Se Loger Bureau et Commerce. En ce qui concerne les profils, on a beaucoup de dirigeants, deux tiers globalement hein, du trafic qui est réalisé par des dirigeants. On a un 20% d'investisseurs et puis on va surtout toucher des PME. Donc ça va être vraiment le profil assez diversifié, mais avec ces grandes tendances-là.
D'accord. Pour avoir autant d'annonces, évidemment, vous travaillez avec les uns et les autres. Autour de la table, tout le monde utilise. Ça devient aussi la plateforme de référence.
Tout à fait.
Marie-Laure, oui, c'est le réflexe aussi, de même que voilà, les agents immobiliers, ils ont se logé. Là aussi, vous travaillez en bon partenariat.
Tout à fait.
On travaille en très bon partenariat effectivement avec le groupe Avive et Se Loger depuis de nombreuses années, puisque nous avons été aussi acteurs aux côtés de Se Loger de la création justement de tout l'univers bureau et commerce. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la place travaillent avec le groupe, et c'est une vitrine digitale pour l'ensemble des activités d'immobilier entreprise.
Alors, ça veut dire que quand on a autant d'annonces et autant de trafic, vous avez énormément de data, hein, c'est l'heure de la data aujourd'hui. Encore faut-il savoir l'exploiter, mais vous êtes aussi des spécialistes chez Meilleurs Agents, où vous étiez, vous avez gardé ces compétences évidemment, que vous mettez maintenant à l'intérieur du groupe. Est-ce que vous avez justement observé une évolution sur la recherche des porteurs de projets? Qu'est-ce qu'ils recherchent depuis finalement cette crise sanitaire qui a rebattu les cartes?
Alors il y a plusieurs tendances qu'on peut observer. En effet, on a une place de choix en ce qui concerne la data, parce qu'on voit ce qui se passe du côté de l'offre, ce qui se passe du côté de la demande. Donc, c'est une position vraiment très particulière. La première chose, c'est qu'on voit que le marché il est de plus en plus concurrentiel. Derrière ça, c'est une évolution de l'offre, c'est-à-dire qu'on a plus 18% d'offres par rapport à l'an dernier à la même période. Ça veut dire qu'on a vraiment une concurrence qui est intense. On voit aussi qu'on a la location par rapport à l'achat, qui est aussi une tendance qui se renforce. Donc en 2 ans, globalement, on a du x2 à x3, selon qu'on regarde du bureau, des locaux, des entrepôts sur le marché de la location. Donc ça, c'est extrêmement important.
On loue davantage aujourd'hui.
Tout à fait. En tout cas, on a une demande pour la location qui a augmenté. Donc ça, c'est typiquement 2 grandes tendances qu'on observe sur le marché, depuis le Covid notamment. Et puis bien sûr, on en reparlera des critères qui évoluent. Donc on pourra parler de ça, mais ça ne concerne pas que le résidentiel, hein, les évolutions suite à la crise Covid.
C'est vrai qu'on a le réflexe aujourd'hui d'aller sur Internet pratiquement pour tout, pour un restaurant, pour quelque chose à acheter. On passe, j'ai l'impression, de plus en plus de temps avant de passer à l'acte, finalement, d'aller voir le professionnel. Déjà sur Internet, c'est une première phase. Est-ce que ça se retrouve dans le temps de recherche des professionnels?
Oui, tout à fait. C'est aussi un facteur qui est plutôt à la hausse dans ce qu'on observe dans les données. Donc, c'est-à-dire qu'on va se renseigner de plus en plus avant de passer l'étape de contacter un professionnel, d'où tout l'enjeu de visibilité, de mise en avant et de réassurance aussi auprès de ces potentiels porteurs de projets.
Bon, c'est intéressant, on a déjà des choses qui se dessinent, hein, location versus achat. On va justement, comme on a de l'expérience autour de la table, s'intéresser à ce marché, comment s'est passé 2022 et puis quelles sont les perspectives 2023. C'est vrai qu'on a eu un marché en demi-teinte ou plutôt à 2 vitesses. Pourquoi? Parce que finalement, le début d'année 2022 était très bon et puis on a eu une cassure avec les événements, l'inflation, la guerre, et puis ça, l'année à marquer le pas. Marie-Laure, comment ça se passe pour cette année? Comment vous appréhendez cette nouvelle année 2023?
Alors, l'année 2022, au niveau locatif, est restée assez stable jusqu'à la fin de l'année.
Oui.
En tout cas, en France et en Europe. C'est l'investissement, et je pense que Nicolas ou Guillaume pourront vous en parler, mais c'est majoritairement le marché de l'investissement qui a décroché plutôt que le marché de la location de bureaux de façon générale, puisque la demande placée, qui est l'un des agrégats que nous utilisons pour justement avoir une idée du dynamisme de la recherche de bureaux et de la prise à bail, était très bonne. L'année dernière, nous avons comptabilisé en région Île-de-France 2,2 millions de mètres carrés de bureaux donc loués par des entreprises, donc de nouveaux projets d'entreprises et de déménagement. L'année dernière a été la continuité de la transformation, et nous en parlions en introduction, de la façon dont les entreprises veulent travailler. Donc une recherche de qualité, une recherche de centralité, une recherche de services pour que justement les entreprises arrivent à continuer à attirer, à retenir des talents, puisque ça c'est la vraie bagarre aujourd'hui, la vraie bataille que les entreprises mènent. L'année 2023 est une année qui semble être un peu moins faste en termes de mètres carrés placés, puisqu'on table aujourd'hui plutôt sur une idée de 2 millions de mètres carrés placés sur cet agrégat dont je vous parlais, qui était à 2,3 millions sur une décennale. Donc ça vous donne une petite idée. Tout simplement parce que d'abord, beaucoup d'entreprises ont déjà fait leur mutation. Deuxièmement, nous avons aussi une empreinte de ces entreprises en termes de nombre de mètres carrés qui se réduit. Donc, on va mettre en place des nouvelles façons de travailler dans l'usage de chacun des bureaux. On ne travaille plus de la même façon. Quand on arrive au bureau le matin, on va changer de place plusieurs fois dans la journée en fonction de son travail individuel, de son travail collaboratif.
Le flex office est arrivé.
Le flex office a continué son évolution. Et donc, aujourd'hui, le flex office est vraiment une façon d'optimiser ces espaces. Malgré tout, je pourrais aussi vous dire que des gens qui ont été assez drastiques dans leur recherche d'économie en termes de surface commencent à nous dire qu'ils sont un petit peu à l'étroit puisque les gens reviennent au bureau. Ça, c'est aussi une tendance de l'année 2023 qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit en Europe, qu'on voit en France encore plus. La France est un pays où les gens viennent beaucoup au bureau finalement par rapport au reste de l'Europe et au reste du monde entier. Donc là, il faut plus de surface pour pouvoir justement avoir une diversité des espaces de travail à proposer aux collaborateurs. Et donc l'année 2023 va être une année de segmentation d'industrie. J'entends par là que certains secteurs vont bien, voire très bien. Le monde de ce qu'on appelle le life science, donc le monde de la santé de façon générale aujourd'hui est un monde qui consomme beaucoup de surface pour maintes raisons. La tech est un peu en décroissance aujourd'hui et le monde du coworking de la même façon aujourd'hui subit cette baisse d'attractivité de la tech. Par contre, en France, le luxe, la finance, les services aux entreprises, les services juridiques sont encore en expansion. Et même si on réduit une partie des surfaces, aujourd'hui, le dynamisme et le mouvement est assez fort.
Avec un petit nouveau dans cette typologie aussi de clients, c'est l'éducation.
Tout à fait.
Il y a de plus en plus d'écoles aussi qui ont besoin de surface et qui, voilà, qui... Alors, c'est plus les campus à l'américaine, type... Bon, il y a une école célèbre, mais qui est très très loin de Paris. Maintenant, on veut revenir dans les centres urbains.
On veut revenir dans les centres urbains. Nous avons une mutation aussi de l'enseignement supérieur. De plus en plus d'écoles sont payantes, donc relativement chères. Donc les étudiants et leurs parents souhaitent des conditions de travail plus exigeantes qu'auparavant. Et effectivement, le monde de l'enseignement supérieur est un monde qui aujourd'hui consomme des espaces de bureaux qui sont transformés et plutôt en centralité, à proximité d'un transport en commun, puisqu'on va le dire, je pense, pendant toute la présentation, mais l'impact carbone de ces déplacements est aussi fort. Donc on va rechercher une centralité et une proximité donc, d'un accès au...
Alors, je ne sais pas si c'est l'impact carbone auquel tout le monde pense ou sa facture quand même au moment de passer à la pompe. Je pense que les deux doivent jouer, à mon avis. Guillaume Dechard, une question justement sur ce marché à deux vitesses. On parle de QCA, quartier centre d'affaires, et quartier périphérique. On a l'impression qu'on est vraiment sur deux modèles et que l'écart s'accentue de plus en plus.
Ah oui, très clairement, effectivement, depuis le Covid aussi. Parce qu'avant, la tendance était différente. Où beaucoup d'entreprises cherchaient plutôt à quitter Paris et à faire des économies en allant en proche banlieue. Depuis effectivement le Covid, c'est tout l'inverse. Et la plupart des entreprises veulent effectivement être dans le centre, proche des transports en commun. Il y a un impact lié à tout ce qui est recrutement, un marché de l'emploi qui est très tendu, qui n'a jamais été aussi tendu depuis au moins 20 ans, si ce n'est 30. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Et les bureaux et leur emplacement sont des facteurs importants de recrutement. Donc, de ce fait, beaucoup d'entreprises, effectivement, cherchent à être dans le centre de Paris, dans le quartier central des affaires. Ça a un impact, évidemment, sur le marché immobilier, puisque vous vous retrouvez avec des loyers qui augmentent très fortement dans Paris centre.
Et très fortement, on a dépassé les 1 000 euros le mètre carré. Hein.
On les approche, en tout cas, oui.
Sur certaines transactions, on les dépasse. Oui. Et effectivement, c'est un vecteur d'attractivité, vous disiez, pour les talents. Oui. Là, c'est même un marqueur. Hein. Aujourd'hui, on parle quand même d'avoir un bureau un peu emblématique, totem, qui est un véritable marqueur pour la société.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un élément essentiel. Et si vous faites des comparaisons économiques en termes de loyer, si vous prenez Paris, Châtelet et Paris et Saint-Ouen.
Paris-Opéra, allez.
Paris-Opéra et Saint-Ouen. Oui. Vous avez la ligne 14 entre les deux qui vous permet de faire d'aller d'un site à l'autre en 10 minutes. Donc c'est vraiment tout proche. Et aujourd'hui, en loyer facial, donc effectivement à Paris-Opéra, vous êtes près des 1 000 euros du mètre carré. Oui. En loyer économique, quand on dit loyer économique, hein, c'est en enlevant les franchises de loyer, les éventuels accompagnements travaux, vous tournez aux alentours de 850 environ, alors qu'à Saint-Ouen, vous êtes à 400 euros,
moitié moins,
354 en facial, et avec des mesures d'accompagnement qui sont beaucoup plus fortes, où les propriétaires offrent en moyenne 30%. de réduction.
Donc, mais encore une fois, comme disait Marie-Laure, le taxe, la finance, encore plus le luxe, compliqué de se mettre peut-être dans ces quartiers encore connotés. Ça va sûrement évoluer avec le Grand Paris. On va s'intéresser à la partie finance avec Nicolas Verdillon. État du marché, état des lieux du marché en termes d'investissement. Donc on le disait, très bonne tendance aussi de tout 2022 pratiquement, avec un T4 qui s'est complètement mis à l'arrêt ou des projets plutôt reportés. Est-ce que c'est reporté pour aller mieux en 2023? Comment vous analysez ce marché d'un point de vue financier, Nicolas Verdillon ?
Je vais rebondir sur deux de vos annonces. Un, effectivement, j'ai bien aimé tout à l'heure, marché à deux vitesses. C'est vrai que jusqu'en septembre 2022, les volumes investis étaient supérieurs de 25% en France, sur l'ensemble des classes d'actifs, à 2021. Effectivement, on peut dire, oh là là, tout va très bien.
Tout allait bien.
Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quatrième trimestre, vous venez de le dire, un arrêt, un grippage, un écoulement. Alors, moi, j'aime bien remettre ça un peu dans son environnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez parlé de tensions géopolitiques pour minimiser les événements qui nous entourent. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme liaison avec ces événements géopolitiques et également lié à la sortie de pandémie ? C'était l'inflation. Et cette inflation, qu'est-ce qu'elle a ? On le sait tous, comme conséquence, c'est que les banques centrales augmentent le coût de l'argent.
Oui.
Pourquoi je dis ça et que j'aime bien remettre cela en perspective ? C'est parce que on n'est pas comme en 2007, 2008, 2009 dans un problème d'equity, de capital disponible. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs. Si l'inflation, d'ailleurs, on a du mal à la réguler, c'est parce qu'il y a tellement d'argent encore à dépenser que ça continue. Donc ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de coût de l'argent. Et si on devait reprendre ces deux vitesses, il y a eu cette première vitesse où on continuait dans la fluidité de l'investissement, avec derrière aussi cette augmentation du coût de l'argent, avec l'augmentation de ce qu'on appelle des bons du trésor à 10 ans, donc de l'OAT. Et tout le sous-jacent de l'investissement immobilier, sans rentrer dans la technique, c'est cette prime de risque. Prime de risque avec le bon du trésor et puis l'investissement. Et comme les bons du trésor avaient augmenté, il fallait que cette prime de risque reprenne d'épaisseur.
Oui. Et on partait du niveau de la mer, de zéro.
Donc, en dessous du niveau de la mer.
Même en dessous.
On était négatif. L'argent était plus que gratuit. Bon. Donc, ça veut dire que la prime de risque réduite, donc à ce moment-là, on s'est dit, avant l'été, bon, il va y avoir des négociations, il faut rétablir cette prime de risque. Ça, c'était, on va dire, le premier coup de frein. Le deuxième coup de frein, c'est au retour de l'été, où on s'est aperçu, finalement, le coût de l'argent augmentait de manière très marquée. On retrouvait des financements de 3,5 au lieu de 1,5, pour faire court, sur des opérations.
Mais en très peu de temps, Nicolas, il faut le souligner, c'est qu'on n'avait jamais vu ça.
Vertical. Quand on regarde les courbes, on est vertical. Donc là, tout de suite, c'est ce qui a arrêté le marché. Alors, l'immobilier est un temps long. Il y a une inertie. Donc ça a continué. On a encore des résultats sur l'année 2022 qui étaient bons. Mais au bout du bout, ce qui a marqué l'arrêt, le grippage, c'est effectivement le mois d'octobre. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant à marquer sur 2022, après on va passer à 2023, parce que tout ça, c'est déjà très loin,
oui. Ça
va vite, c'est qu'il y a une très très forte diversification. On parlait du bureau, on va revenir sur le bureau, mais le bureau, même si les volumes investis en France étaient de l'ordre de 34-35 milliards d'euros, les volumes, eux, bureaux, ils ont baissé de 20%. Alors que dans cette diversification, le résidentiel augmentait encore, en tout cas stabilisait, la logistique se stabilisait, l'hôtellerie augmentait, on est monté à 3,6 milliards, 3,7 milliards.
On nous en parle beaucoup depuis ce matin ici au MIPIM, diversification et classe d'actifs montante.
Les touristes sont venus, le bas de laine se dépense, etc., etc. Donc une diversification dans les activités, mais le bout du bout, et ça c'est tout ce qui est le moteur du marché 2023, l'argent est là, bon, il y a un petit peu moins de collecte, on pourra essayer de revenir si vous le souhaitez, mais c'est surtout de trouver le bon équilibre dans cette correction de prix. Et la correction de prix, on commençait à avoir une sorte de ralentissement de la croissance de l'inflation, qui, en fait, c'est l'inverse qui est en train de se passer depuis 15 jours, où on s'aperçoit finalement cette inflation continue. Et quand l'inflation continue, qu'est-ce que font les banques centrales ? Eh bien, elles augmentent encore le coût de l'argent. Donc on se retrouve maintenant dans un environnement pour le 2023 où on pensait qu'il devait y avoir une meilleure fluidité.
On pensait surtout qu'on allait avoir un point d'atterrissage et voilà une zone où on allait commencer à se stabiliser au niveau des taux. Et là, les chiffres d'inflation qui continuent à augmenter font qu'effectivement, on est peut-être... Il y a une nouvelle vague d'augmentation. Et puis là, on en parle pour les professionnels. Pour les particuliers qui nous écoutent, ceux qui souhaitent emprunter, on a bien vu, on était à 1%. En janvier 2022, on est aujourd'hui à 3,5% et ça va encore augmenter. Constance Macrae, je vous repasse la parole parce que justement, vous avez fait une étude sur la perception des porteurs de projets dans l'immobilier tertiaire. Voilà, dans cette conjoncture. Alors, vous allez nous donner la méthodologie déjà d'étude. Ça a été réalisé quand et auprès de qui ?
Alors, c'est une étude qui a été réalisée en septembre en partenariat avec l'Institut Potluck auprès de 390 porteurs de projets. Qu'il s'agisse d'achat, de location, quelle que soit la
septembre, hein, vous avez septembre 22, donc on est justement dans cette zone un peu où ça commence à se tendre et on voit les prix, enfin les taux en tout cas, commencer à augmenter.
Exactement, le début de oui. cette phase-là. Ce qu'on regarde comme tendance, c'est les choses qui sont stables, les choses qui sont en mutation, parce que c'est une étude qui est réalisée chaque année, donc ça permet aussi de voir quels sont les critères qui ont bougé et les curseurs qui ont bougé. Ce qui ne change pas, c'est finalement tout ce qui est structurel, c'est-à-dire pourquoi on a un achat. C'est la création d'activité qui est le critère numéro un. Ça, c'est immuable. Les pourcentages peuvent changer, mais ça reste des facteurs qui sont présents. En revanche, il y a des choses qui changent. On parlait des critères. Il y a 27% des répondants qui nous disent que les critères sont différents dans cette nouvelle donne. Donc évidemment, c'est à nous de nous adapter, de comprendre quelles sont les tendances. On pourrait parler, bien sûr, des bureaux flexibles pour lesquels on a fait évoluer le site Se Loger Bureau et Commerce pour intégrer le coworking, les bureaux flexibles. C'est notre rôle aussi de s'adapter à cette nouvelle donne. Et c'est des nouvelles tendances, notamment l'impact environnemental. Il y a un an, c'était cité par 7% des répondants. Maintenant, c'est 20%. Alors, notre point de vue, c'est que c'est encore trop peu. C'est encore trop timide comme oui. prise de conscience.
C'est x3 quand même.
Mais c'est quand même x3 en spontané des porteurs de projets qui disent que c'est un critère important dans la recherche de mon projet.
Mais là aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la voiture versus le vélo, par exemple, pour certains. Est-ce que c'est dans une volonté d'économie, quand on parle d'impact environnemental, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait le poids de la réglementation, on a des DPE de plus en plus drastiques, on a des factures, évidemment, qui augmentent. Donc, c'est motivé. Vous êtes allé dans ce degré de finesse de savoir si c'est la peur, finalement, de la facture qu'on va recevoir ou une véritable volonté écologique ou environnementale.
Il y a quand même la prise de conscience dans le sens où c'est l'impact environnemental de mon bureau qui est important. Mais on n'a pas l'importance de la facture, mais
ça doit jouer quand même.
Ça doit jouer.
Impact environnemental. Critères ESG, hein, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, bâtiments bas carbone. On a l'impression, Marie-Laure de Souza, qu'on est passé, on va utiliser des mots anglais, on est au MIPIM, un nice to have, quelque chose de bien à avoir ou à faire, à un must have. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez auprès de vos clients ?
Pas assez encore, mais c'est une obligation. Aujourd'hui, le monde de la construction et de l'immobilier d'entreprise dans le monde représente 40% des émissions de carbone. C'est monstrueux. Nous sommes des acteurs de cette transformation. Oui. Donc nous, professionnels de l'immobilier, c'est aujourd'hui un critère numéro un dans l'ensemble de nos prises de décision, de nos choix, de nos nouvelles offres de services. Il faut vraiment qu'on arrive à convaincre nos clients que ce n'est plus du nice to have, mais aujourd'hui que c'est un critère prépondérant. On parlait tout à l'heure justement des talents que les entreprises ont du mal à recruter. C'est à notre sens le critère numéro un dans les prochaines années pour qu'un jeune diplômé choisisse sa future entreprise.
Oui.
C'est extrêmement important.
Vous me disiez que quand même les grandes entreprises CAC 40, SBF, enfin voilà, les grandes entreprises cotées, elles ont franchi le pas ou elles sont en train de le franchir ?
Elles n'ont pas tout à fait le choix dans un premier temps puisqu'effectivement elles sont très visibles. On parle aussi, on veut être aussi dans l'anglicisme, du name and shame qui est très en vogue dans les pays anglo-saxons. Donc justement quand on ne va pas dans le sens de cette démarche environnementale, on a aussi une mauvaise image, une mauvaise réputation qui peut avoir un impact très fort sur la vie économique de l'entreprise. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes assez frustrés en tant que professionnels de l'immobilier d'entreprise de voir parfois des entreprises nous dire « je veux justement attirer de nouveaux talents, je veux aller dans le sens des critères ESG ». Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le parc immobilier français un grand nombre d'immeubles qui pourraient correspondre justement à ces attentes. Au-delà des certifications, des labels, on a des immeubles aujourd'hui intelligents, on a des immeubles qui peuvent être même en non-émission de carbone. Et les entreprises, pour l'instant, nous disent « ok, super, mais je préfère quand même être en pied de métro dans le 8e arrondissement, de ce fait, être, comme Guillaume l'expliquait, dans une situation de hausse des valeurs, puisque nous avons une très très forte demande pour peu d'offres. Et à côté de ça, on a beaucoup d'immeubles aujourd'hui qui sont vertueux, pour lesquels on a du mal à faire déménager les entreprises, à les faire porter des projets beaucoup plus long-termistes qu'uniquement une prise à bail en cœur de ville. Et ça, pour l'instant, il faudrait que cette démarche se répande de façon plus large, parce qu'elle nous semble urgente.
Guillaume, vous voulez rebondir sur ce qui vient de dire ?
Oui, côté investissement, il y a en plus des immeubles qui sont en construction, il y a tous les immeubles existants. où effectivement, avec le décret tertiaire qui arrive à grands pas, décret tertiaire, c'était une notion, deux ans, tout le monde en parlait, mais personne ne... Voilà, ne...
Parce que c'était loin aussi.
C'était loin, mais c'est encore loin, oui. Mais néanmoins, la plupart des investisseurs ont maintenant vraiment pris acte de ce sujet, et tous les immeubles, donc effectivement, qui sont... ont été construits voilà, dans les années 80, 90, 2000, sont aujourd'hui, vont faire l'objet ou font déjà l'objet de travaux significatifs. Et ça va changer beaucoup les choses parce qu'effectivement, il y a un parc en France de bureaux qui est obsolète au regard du décret tertiaire, au regard de ces nouvelles normes et de ces nouvelles exigences.
On rappelle, hein, l'ambition, c'est de réaliser 60% d'économie d'énergie d'ici à 2050 avec des paliers 30-40,
ouais, à partir de 2030.
À partir de 2030, donc il faut s'y mettre aujourd'hui. Nicolas Verdier, en termes d'investissement, cette transition, elle est forcément inflationniste. Déjà qu'on a pas mal d'inflation, ça va renchérir tous les coûts.
Oui, je vais rebondir effectivement sur l'histoire des coûts. Il est vrai que nous aussi, on fait des études. Et on a fait une dernière étude, un dernier sondage fin de l'année dernière sur les envies et les ambitions, les objectifs des investisseurs sur 2023.
Oui.
D'une de trois chiffres, quasiment un tiers des investisseurs qui ont des opérations obsolètes sont prêts à les vendre, à les céder. Donc on voit bien qu'ils veulent les sortir et qu'ils ont bien conscience que, alors c'est pas pour les mettre au rebut, en tout cas ils veulent les sortir. Ça, c'est un premier chiffre important. Deuxième chiffre qui est important, c'est que par rapport au coût, 25% des investisseurs qui étaient interrogés sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir un produit décarboné ou en tout cas qui correspond, qui va dans l'attente de la transition énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est que plus de la moitié de ces 25% sont prêts à payer 20% plus cher et plus de coûts qu'une normalité pour avoir un produit qui ne correspond pas ou qui correspond en tout cas sur la décarbonation.
D'accord.
On voit bien que ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la première approche. La deuxième chose, c'est que on se retrouve prêt à payer plus cher dans les financements. Comment fait-on ? C'est un peu l'inverse, là. Pourquoi je dis ça ? C'est que dans les critères maintenant des banques pour vous prêter de l'argent, vous avez la décarbonation et puis vous avez les économies d'énergie. Les deux sont un peu liés. Et on s'aperçoit que vous avez des prêts bancaires qui se font sur, par exemple, un accord qui fait que si vous vous engagez dans les 2 à 3 ans maximum, compte tenu de la maturité de la dette, dans les 2 à 3 ans maximum à faire des économies d'énergie, on vous rabaisse votre coût de votre financement de 5, 7 ou 10 points de base.
D'accord.
Alors c'est incitatif, hein. Oui. Rien de punitif pour l'instant. Hein. On pourrait dire, est-ce que ça reste une obligation ? Non, ce n'est pas une obligation. Ça serait bien. Mais ça va le devenir. Ça va devenir punitif. Hein.
C'est la tendance.
Donc là, on a un coût, c'est l'inverse, là.
D'accord. On revient à votre étude, Constance, si vous le voulez bien. Est-ce que c'est le bon moment pour ceux qui estimaient, il y a quelques mois, qu'ils voulaient se lancer dans le projet, parce que ça pourrait être un repoussoir, finalement, cette conjoncture un peu compliquée, de se dire, alors, on n'a pas l'impression que les taux vont baisser très rapidement. Est-ce que c'est le bon moment ? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous pouvez leur poser cette question ?
Alors c'est là qu'on voit que c'est quand même un marché assez résilient, parce qu'il y en a 3/4 d'entre eux qui nous disent que c'est toujours un bon moment.
Oui.
Donc encore une fois, si on a le recul, c'était 81%, donc c'est à la baisse par rapport à l'année passée.
Oui.
Mais ça reste extrêmement résilient. Donc c'est toujours le bon moment. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de comprendre les signaux faibles derrière ça, et on voit qu'en fait, que ce soit côté acheteur, cédeur, ou côté personne qui recherche, donc porteur de projet à l'achat ou à la location, on a des profils assez pessimistes, c'est-à-dire que celui qui doit céder se dit que les prix vont baisser, et puis celui qui doit acheter ou louer se dit que les prix vont monter. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, c'est que c'est un bon moment, mais on est un peu précautionneux par rapport à ce qui peut se passer. On se dit que la balle n'est pas trop dans son camp, respectivement.
D'accord, donc voilà, il regarde la projection, et c'est vrai que les acheteurs se disent, de toute façon, je paye, mais ça sera peut-être plus cher demain, ou les conditions de financement vont se durcir, ou je serai obligé d'être complètement ESG, vert, avec d'autres contraintes peut-être, donc compliquées. On a évoqué tout à l'heure justement des tendances qui bouleversent ce marché de bureaux, c'est notamment sur le marché du travail, le télétravail. Alors, je ne sais pas dans vos entreprises respectives combien on est, un jour, deux jours, trois jours, est-ce qu'on est revenu ? En tout cas, on a l'impression qu'il y a un sentiment de retour au bureau. Voilà, la fête est finie, c'est vrai que certains en ont abusé et les RH s'en sont un petit peu émus. Marie-Laure de Sousa, vous nous disiez tout à l'heure, c'est vrai que la France, enfin les Français, eux, ils viennent au bureau. On n'est pas comme les Américains à faire du full remote, c'est-à-dire voilà, de passer sa vie chez soi et d'oublier qu'on vient à l'entreprise.
Alors ça s'explique par plein de raisons, des raisons culturelles dans un premier temps, des raisons liées au résidentiel. Je vous avouerai que quand il y a un peu plus de place, où on a aussi la possibilité d'avoir un bureau dans de bonnes conditions, oui, et aux États-Unis en l'occurrence, c'est plutôt le cas. Il y a une question de coût des transports. En Angleterre, le coût du déplacement professionnel pour aller de chez soi au bureau représente entre 20 et 25% du salaire moyen d'un cadre à Londres. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il y a peut-être un intérêt à rester chez soi, au-delà du fait qu'on n'est pas en cœur de ville et que la résidence ne se passe pas en cœur de ville, mais plutôt à la campagne, donc avec plus de place. Donc vous voyez, il y a des éléments très factuels. Après, il y a des éléments culturels. Plus vous êtes dans le sud de l'Europe, plus vous aimez aller au bureau parce que vous aimez rencontrer les gens et vous considérez que c'est une expérience sociale que de venir au bureau parce que ça fait partie d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et puis après, en ce qui concerne nos entreprises en tant que telles, je vous avouerai que nos métiers sont de valoriser, expertiser, vendre, louer des bureaux. Donc si nous n'y sommes pas, c'est quand même un petit peu ballot. Aujourd'hui, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied aussi par rapport à ce que nous représentons au quotidien et les valeurs que nous considérons aussi être fortes dans la vie sociale que justement cette interaction de la vie professionnelle avec ses collègues, avec ses clients. Oui. Et pour terminer, aujourd'hui, on voit quand même une certaine limite donc au télétravail. Donc je vous confirme qu'aux États-Unis, parce que être loin des yeux, loin du cœur a aussi eu un impact sur un certain nombre de salariés aux États-Unis. Ils reviennent de façon assez massive au bureau, mais pas partout. Donc on a des grands mouvements démographiques aux États-Unis. New York perd un certain nombre d'habitants, Los Angeles perd un certain nombre d'habitants au profit de villes secondaires comme en France, par exemple. Donc il y a aussi cette mutation qui est importante. Et aujourd'hui, on constate malgré tout que dans un premier temps, le télétravail permet une hausse de la productivité puisqu'on réalise une tâche seule et on gagne du temps sur le temps de transport. Mais là, ce dont les sociologues sont en train de se rendre compte et les chefs d'entreprise, c'est qu'on perd toute la créativité, toute la construction de nouvelles offres, les nouveaux produits de demain. Et lorsqu'on est tout seul chez soi, c'est beaucoup plus compliqué d'inventer le futur. Et c'est ce qui fera, à mon sens, revenir les gens dans un cadre de bureau peut-être différent.
D'accord.
Mais
donc on est une asymptote. Au début, on progresse très vite dans un gain de productivité, puis ça stagne, et puis peut-être ça baisse, on a une perte d'envie, de motivation. C'est intéressant ce que vous disiez justement sur l'envie d'aller au bureau. Je pense que le français, bon, comme souvent, on est un peu au milieu, on est latin, on aime aussi, on a bien embrassé ces nouvelles technos. Mais quelqu'un me disait, un intervenant, que c'est vrai que souvent en France, on est dans des bureaux quand même 5 étoiles. Et par rapport à un habitat qui est petit, qui est bon, des fois un peu compliqué, ben on aime aller au bureau parce qu'on se retrouve dans des endroits très sympathiques. Il appelait ça le bureau 5 étoiles. Et alors, je connais un petit peu les bureaux des uns et des autres. Et là, on n'est pas sur le cordonnier le plus mal chaussé, hein, parce que vous avez tous des bureaux assez sympas, c'est vrai. Et Guillaume, votre avis, là, justement, sur ce télétravail, qu'est-ce qui l'a bouleversé? Quelles sont les tendances que vous observez?
Oui, bah, tout dépend des métiers aussi. Hein, effectivement, entre une société informatique avec des développeurs ou effectivement un métier comme le nôtre où on doit être en visite et sur le terrain, la dose de télétravail ne peut pas être la même. C'est une question d'équilibre. Je pense qu'en effet, il y a eu post-Covid un balancier qui est allé un peu trop vers le télétravail, qui en effet revient maintenant. Alors le tout, c'est qu'ils reviennent à son juste milieu. Je pense, oui, que la solution de dire on abandonne le télétravail, ça n'existe pas. Tout le monde en a pris acte et je pense que c'est une très bonne chose pour l'équilibre personnel. Nous, on avait mis en place le télétravail avant le Covid, donc c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur. Pour autant, effectivement, il faut que ce soit un bon équilibre entre... je travaille un peu chez moi, mais ce n'est pas au détriment de mon appartenance à l'entreprise, ce n'est pas au détriment de mes relations sociales avec l'ensemble de mes collègues ou collaborateurs.
Alors, je vais être plus spécifique, comment ça se traduit finalement dans les bureaux? Est-ce que, par exemple, on a des réaménagements de surface? Parce qu'on se dit, bah, si tout le monde n'est plus là ou vient au 15-5e ou au 3-5e, finalement, on peut recomposer le bureau complètement. Est-ce que c'est ce que vous avez observé?
Le télétravail est un élément porteur pour effectivement le flex office, parce que, ouais, en effet, dire à un collaborateur qui vient en permanence au bureau tu n'as plus de bureau fixe, c'est relativement compliqué. Dire à un collaborateur bah, tu viens 3 jours par semaine, de ce fait tu n'as plus de bureau fixe, ça paraît plus cohérent et envisageable. Donc c'est un élément porteur pour le flex office. Pour autant, le flex office, en France en tout cas, a des difficultés quand même à s'imposer, parce que bah, le Français est très attaché à son bureau.
C'est-à-dire qu'au final, on n'a pas forcément une... on pourrait se dire on va réduire massivement le nombre de mètres carrés pour une entreprise, mais non, en fait, ça se recompose avec des nouveaux espaces.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a des salles de réunion,
des espaces collaboratifs, des espaces détente, enfin, voilà, après, il y a beaucoup d'imagination, des salles de sport, enfin bref, des éléments, des salles de sieste.
Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on en sourit, mais je pense que c'était quand même inimaginable, voilà, et quelques années qu'on a... En tout cas, quand nous, on a commencé, vous disiez salle de siège, je pense que vous preniez la porte en quelques minutes. Nicolas Verdion, sur cette transformation, qu'est-ce que vous observez de votre côté?
Moi, j'observe via l'œil des investisseurs. Il est vrai que ça a eu comme conséquence, j'espère que vos auditeurs n'en voudront pas, je vais faire un peu de franglais, de l'office bashing. Mais en fait, attention, il sort de double focale ou un prisme un peu différent dans la lecture qu'on doit avoir, en sens où, oui, il y a des interrogations sur les nouvelles méthodes de travail qui ont des répercussions. On parlait des réductions de surface entre 15 et 20%. Après les études qu'on a faites, ça peut être plus, ça peut être moins. Tout le monde s'accorde à dire c'est 15 à 20%. Donc il est normal que les investisseurs s'interrogent et s'adaptent à cette nouvelle méthode de travail. Mais moi, j'ai juste, quand j'entends office bashing, je voudrais juste donner 2-3 chiffres. Le premier, c'est quel est le volume investi l'année dernière en France, alors qu'on a dit que le volume avait baissé.
Oui.
Il est quand même de 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros, ça fait un peu d'argent.
C'est pas mal.
Premier point. Deuxième point, Marie-Laure l'a très bien dit, les utilisateurs, nous tous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'aller au bureau. Donc les entreprises ont beaucoup plus besoin de bureaux qu'elles ne veulent bien, en tout cas les collaborateurs, l'entendre et l'accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte d'adaptation, de mise au point entre le marché de l'offre et de l'acquisition des investisseurs sur le bureau. Mmh. Associé à cela, ça a été dit tout à l'heure, il y a une centralisation, les utilisateurs veulent être dans la centralité, dans la mixité urbaine. Si vous voulez acheter des bureaux, l'offre doit être là. Mais si vous réduisez la localisation, l'offre de bureaux réduit aussi. Donc de ce fait, deux conséquences, une augmentation des prix. Donc les prix deviennent trop chers. Donc vous dites, c'est trop cher, je n'achète plus. Ou il n'y a pas assez d'offres. Donc il n'y a pas assez d'offres, vous ne pouvez plus acheter. C'est pour ça aussi que techniquement, les volumes, ils ont réduit. Mais ils n'ont pas réduit parce que les investisseurs ne veulent plus de bureaux.
D'accord.
Ils ont réduit parce que les investisseurs sont adaptés et parce qu'on est, on va dire, beaucoup plus sélectif par rapport à ce qu'on recherche. Et le bureau est toujours recherché. Alors ça donne aussi des possibilités, comme il y a beaucoup d'argent, de se diversifier. Mais la diversification, vous direz de me répéter, n'est pas contre le bureau.
Il nous reste quelques minutes, justement, cette table ronde, voilà, mythe et réalité sur le bureau, en tout cas, perspective et réalité. C'est vrai, Constance Macrae, vous avez vu, vous nous disiez dans votre étude, donc quelques constats, les gens ont envie finalement de continuer à trouver leur bureau, le bureau de leur rêve, même si c'est en pleine mutation. Qu'est-ce qui vous a étonné, vous, justement, dans cette étude? Qu'est-ce qui vous a surpris, peut-être?
En réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la résilience qu'on voit par rapport à ce marché changeant, ça peut être une surprise. On voit que finalement, les curseurs, ils bougent relativement lentement.
Oui.
On aurait pu s'attendre à des choses un petit peu plus drastiques. Donc ça, c'est un élément de surprise numéro un. Le deuxième, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est que nous, par la posture qu'on a sur le marché, on se doit d'être très à l'écoute de l'évolution des critères, de la demande. Et là, on se rend compte, et je mentionnais tout à l'heure le fait d'intégrer les bureaux flexibles, les coworking, ce n'est qu'une première étape, mais on se rend compte qu'il faut être très véloce par rapport à l'adaptation de ces critères, et qu'en fait, le marché est en mutation, le marché évolue vite, et qu'il ne faut pas avoir un train de retard. Donc quand on a une plateforme comme Se Loger Bureau et Commerce, c'est un challenge aussi d'être à la page et de s'adapter. Voilà, deux points... De surprise ou en tout cas de challenge pour nous aussi en tant qu'entreprise.
Bon, on compte sur vous pour vous adapter. C'est vrai que là, il y a la matière grise, en tout cas, avec toutes les datas que vous compilez de manière très forte. Et puis nous, on est friands, effectivement, de ces informations, d'avoir autant d'informations. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, vous allez rejoindre vos deux... C'est en cours. Aujourd'hui, vous avez encore deux sites. Donc, c'est un bon exemple. Vous allez vous réunir à Opéra. Pour le coup, c'est un très beau bureau. On a eu l'occasion de visiter.
Il y a un déménagement imminent et beaucoup de choses font écho aux questions qu'on a sur... Justement, le nombre de places, le flex office, faire de l'expérience au bureau une expérience enchantante. Donc, beaucoup de choses qu'on a entendues.
D'ailleurs, vous avez remarqué tous le flex office, on a plus de place vraiment attitrée, mais petit à petit, on a tendance à se remettre à la même place. Et puis, il y a le mug qui apparaît, la photo du chien, et finalement, on recrée son bureau assez rapidement. Marie-Laure, avec vous, juste, je voudrais dézoomer un tout petit peu de Paris. Qu'est-ce que vous avez des chiffres aussi ou des tendances sur les autres villes? C'est vrai que les autres villes, c'est vrai que le marché parisien est le plus dynamique, le plus important. Le plus profond, mais Lyon, Nantes sont des marchés intéressants aussi.
Alors, l'ensemble des éléments que nous avons mis en lumière depuis tout à l'heure sont des accélérations de tendances qui existaient avant le Covid. Tout ce dont on parle, le flex office, la sustainability, enfin, l'ensemble des éléments liés à notre discussion d'aujourd'hui ont vraiment été accélérés par un arrêt total de la vie des entreprises et de nous tous. Donc, toutes les tendances que nous voyons s'accélèrent. Les régions aujourd'hui sont très dynamiques. En France, nous avons évidemment, enfin, nous avons une centralisation des activités sur la région parisienne, mais malgré tout, Lyon est une ville extrêmement dynamique en bureau depuis 25 ans, comme la région aujourd'hui PACA, comme Bordeaux, comme Lille. Donc, ce sont des métropoles régionales aujourd'hui qui sont très fortes, qui ont une activité liée à l'écosystème de leur géographie, mais aussi de façon plus globale. Et puis, la France a la chance d'être aussi au cœur de l'Europe continentale. Donc, nous avons aussi un grand nombre de ces métropoles régionales qui sont des hubs, du moins des points de ralliement d'autres pays européens. Donc, c'est assez fort. Ce qu'on peut aujourd'hui donner comme élément factuel, c'est plutôt lié au résidentiel et au mouvement démographique résidentiel, donc un impact sur le bureau dans ces métropoles. Mais on a aujourd'hui aussi les éléments factuels de la demande placée dont on parlait tout à l'heure sur Lille, sur Lyon, sur Bordeaux, sur Marseille, qui est en constante évolution, avec là un manque d'offres. Donc Nicolas en parlait tout à l'heure, donc un manque d'offres de qualité qui correspondent aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est assez fort. Et par contre, petite tendance que nous voyons, c'est l'émergence aussi de plus petites villes, oui, qui auparavant n'étaient pas forcément sur notre spectre géographique, mais le monde résidentiel s'étant étendu, on a des villes dites secondaires qui aujourd'hui commencent à sortir leur épingle du jeu pour accueillir des sièges
sociaux.
Dans le Grand Ouest, dans le Grand Sud-Ouest aussi, dans la région PACA, on a quand même un certain nombre de villes secondaires qui ont un vrai essor.
Même question pour Constance, quand on parle immobilier tertiaire, qu'est-ce qui vous étonne en ce moment, quand on parle perspective ou peut-être fantasme et réalité? Vous, c'était l'ESG qui...
En fait, mythe et réalité, je pense qu'on a été assez objectif aujourd'hui, donc on vous a donné des éléments assez factuels sur la réalité. Sur les mythes, c'est la fin du bureau, c'est non, ça c'est non, hein. Ça je pense qu'on l'a bien dit aujourd'hui, donc ça, mythe. Mythe effectivement d'une société utopique où on renverserait la table trop vite.
Ouais. Le bureau est mort, voyait-on, il y a quelques...
Oui, voilà, ça c'est non, par exemple. Vous voyez, dans le mythe et la réalité, ça c'est absolument certain. Maintenant, à nous de réinventer la ville de demain, à nous de réinventer une ville plus durable, plus inclusive, dans laquelle chacun a un outil de travail qui lui permet de satisfaire et que la vie professionnelle soit une vie agréable et non subie.
Même question pour vous, Guillaume Deschères. Qu'est-ce qui vous étonne? Voilà, peut-être des décalages des fois qu'on observe entre ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre et la réalité du métier.
Oui, déjà, effectivement, c'est que le marché de bureau se porte bien aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent, que le marché est toujours aussi dynamique, y compris en début 2023, contrairement effectivement à ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, dans les médias ou sur les crises économiques. La crise n'est pas aussi forte qu'on veut bien le croire. Pour rebondir sur ce que disait Marie-Laure sur les régions, il y a une certaine décentralisation qui... Je pense qu'il commence à arriver en France, où effectivement, alors tant côté utilisateur, beaucoup de sociétés s'implantent dans les différentes villes de France. Et on a des marchés locatifs qui augmentent en région, et tant en volume qu'en valeur locative. C'est la même chose pour le marché de l'investissement, où aujourd'hui, en 2022, le marché des régions a représenté 40% du bureau, du placement, de l'investissement en bureau. Certes, l'Île-de-France représente encore 60%, hein, c'est pas neutre, mais
un rééquilibrage, finalement.
C'est en baisse, voilà. C'est, effectivement, et plus ça va, plus le marché des régions est intéressé.
Donc, progression des territoires, ouais. Effectivement, on a souvent dit que le Covid avait été bien meilleur que n'importe quelle politique des territoires, hein, pour équilibrer le marché tant résidentiel qu'on le voit sur les bureaux. Oui. Nicolas Verdillon, voilà, rapport d'étonnement aussi sur peut-être ce qu'on entend, ce qu'on lit, certains fantasmes et ce que vous voyez sur le terrain.
Oui, je ne vais pas dire tout le contraire de ce que j'ai déjà dit, mais je rajouterais, je pense que tout est une histoire de mise en perspective. Tout est une histoire de mise en perspective dans le sens où, même si le bureau s'est consolidé un petit peu à la baisse dans les volumes investis, c'est dû également au fait qu'il y a eu d'autres produits de diversification qui sont attractifs. j'en veux pour preuve, tout ce qu'on appelle les produits dits générationnels. Le générationnel, on peut très bien dire, tiens, c'est la consommation via Internet, donc le e-commerce, donc la logistique augmente, dans l'acte, et puis bien évidemment, tout ce qui est lié à la démographie, les résidences-services seniors, les résidences-services étudiants, etc. Tout à l'heure, Marie-Laure parlait du life science, tout ça, c'est lié à la recherche fondamentale et appliquée à la santé de l'animal, de l'homme, etc. Donc ça donne des ouvertures, des possibilités d'investir différemment sur d'autres types de supports, mais ça ne veut pas dire que le bureau, le commerce, c'est à mettre au rebut dans les sous-jacents. Les fondamentaux sont globalement de qualité dans l'immobilier. Il n'y a pas eu de surproduction. Il y a simplement maintenant une correction de prix qui est nécessaire, hein, et qui sera un petit peu plus longue que ce à quoi on s'attendait. Il y a encore de cela 9 à 12 mois.
Ouais, et on continue à travailler dans les bureaux, d'ailleurs peut-être de plus en plus longtemps, on le verra cette semaine hein, notamment. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les perspectives, les mythes et les réalités sur cet immobilier tertiaire. Un grand merci à vous quatre, bien sûr Constance, on continue hein, sur ce loger, on aura toute la data, on attend les prochaines infos, les prochaines études. En tout cas c'était un grand plaisir de partager cette table ronde spéciale avec vous, Constance Macré, directrice de la croissance stratégie commerciale chez Avis Group, groupe Se Loger Meilleurs Agents. Merci Constance. Nicolas Verdillon, directeur d'investissement chez CBRE France.
Merci.
Guillaume Deschères, directeur chez Evolis, et Marie-Laure Leclerc de Souza, directrice agence bureau Europe chez JLL. On vous souhaite un excellent MIPIM à tous les quatre, c'est en MIPIM 2023, et à très bientôt sur Radio Imo.
Émission spéciale Se loger, bureau et commerce en direct du MIPIM 2023 sur Radio Imo.